Bonjour. Alors, nous allons rencontrer un auteur qui a frappé fort dans la science-fiction avec son dernier album qui s'appelle Shangri-La, Mathieu Bablet.
Bonjour.
On va avoir une conversation assez libre. Le but, c'est que vous rencontriez Mathieu, pas que je lui fasse raconter ce que j'ai envie qu'il raconte. Moi, ce qui me frappe, c'est quand je me balade avec toi ici, c'est que tout le monde dit « Ah, qu'il est jeune !» Donc, il semblerait que tu aies une œuvre mature et un corps jeune. Qu'as-tu fait pendant ta jeunesse pour arriver jusqu'ici ?
Disons que... Alors oui, voilà... J'ai eu un objectif très très tôt, c'était de faire de la bande dessinée. Enfin, c'est un truc qui m'a accompagné dès l'enfance, qui a été quelque chose c'est pas une envie qui a diminué au fil du temps, à un moment où il a fallu être raisonnable et penser à des études supérieures un peu plus stables. Je pense que j'ai eu un parcours de bande dessinée idéal, alors par chance, opportunité ou je sais pas, mais toujours est-il que moi, j'ai commencé par une école d'art appliqué, donc une chose assez classique, l'équivalent d'une école pivot ici à Nantes, à savoir de l'histoire de l'art, de la bande dessinée, de l'illustration, essayer de faire un peu un tour de toutes les, expérimenter graphiquement. Plusieurs choses, sachant que mon objectif était toujours quand même resté le même malgré justement les opportunités de toucher à différentes choses au sein de l'école. C'était de faire de la bande dessinée. C'était de faire de la bande dessinée à un moment où, j'ai l'impression d'être arrivé à un moment où la bande dessinée changeait. Il y a Ankama qui arrivait sur le marché et moi c'est en tant qu'étudiant que j'ai découvert Moutafoukaz. À savoir donc de la pagination libre, un format qui a explosé un peu les codes du 48 pages. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est ce que je veux faire. Avant, je voulais faire de la bande dessinée pour le plaisir du dessin. Là, je voulais, il y avait un objet, il y avait quelque chose qui me disait il y a une forme de narration qui m'intéresse là-dedans, il y a un style, un genre.
C'est à ce moment-là que tu as envie de raconter, en fait, que tu deviens auteur complet un petit peu en voyant ça ? Dans ta tête, en tout cas.
Oui, parce que dès le départ, par contre, j'aimais dessiner, je voulais dessiner. Le fait de devenir auteur n'était pas du tout une volonté. Ça s'est construit un peu malgré moi, dans la mesure où, une fois l'école terminée, on se retrouve tout seul, hein, finalement. Ce qui est un peu, je pense, le constat de beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émulation, on travaille de son côté, on essaye de commencer à payer les factures en faisant des petits projets.
C'était quelle école ?
Alors, c'était l'ENAI. C'est une petite école à Chambéry, donc dans le coin d'où je viens, qui a été créée par un ancien d'Émile Cole. Vraiment un truc très, très classique en 3 ans. Donc après cette école, j'ai mis un an à monter un projet pour Ankama. Donc voilà, le fait est que là, j'étais tout seul, un peu livré à moi-même. Donc il fallait le dessiner, il fallait aussi l'écrire. J'avais aucune base d'écriture. Et c'est peut-être un manquement que font certaines écoles d'art appliquées, à savoir de ne pas proposer du storytelling et des cours d'écriture, tout bêtement, quoi, dans la mesure où aujourd'hui, particulièrement dans la bande dessinée, c'est un média autorisant, quoi. C'est un média qui permet de s'exprimer au-delà juste de la sphère graphique.
Et le pire, c'est que de l'autre côté, à l'université, côté littéraire, il n'y a pas de formation au scénario de bande dessinée. Donc, de fait, il est impossible aujourd'hui de se former au scénario de bande dessinée.
Complètement, complètement. Du coup, c'est quelque chose qui vient sur le tas, en lisant, en s'abreuvant des différents médias. En l'occurrence du cinéma pour moi, et je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans mon travail, à savoir une dynamique et des découpages très cinématographiques. Mais voilà, toujours est-il que passé ces un an à travailler sur un dossier, j'avais un objectif, c'était de le présenter à Ankama. Je voulais travailler avec eux spécifiquement. Si le dossier passait pas, je serais allé voir d'autres éditeurs. En l'occurrence, ils ont été tout de suite intéressés. C'est tout de suite Run, donc le directeur du label 619 et directeur du pôle édition de manière générale, qui m'a plus ou moins pris sous son aile, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment aussi une politique d'aider les auteurs à mûrir leur projet, à mûrir leur art et à presque à se révéler à eux-mêmes. Donc La Belle Mort est née comme ça, et ensuite bah, ça a continué. Donc voilà, ça continue jusqu'au succès de Shangri-La, qui est ma troisième bande dessinée. Et c'est pour ça que je parle de parcours idéal, c'est parce qu'il y a eu peu de friction finalement entre la volonté initiale et le résultat après 7 ans de vie professionnelle dans le milieu de la BD.
La Belle Mort a marché assez pour que Rankama ne se pose pas la question de te faire un second album en plus.
Oui, complètement. Voilà. Ouais, ouais. Enfin, ni trop ni pas assez.
Juste
mais
assez pour
ne
pas
quoi.
Être trop angoissé.
Exactement. Voilà. Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui peut passer par la tête de quelqu'un ? Alors, t'as quel âge précisément aujourd'hui ?
30 ans.
30 ans pile, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui passe par la tête de quelqu'un qui n'a pas encore 30 ans de se lancer dans des récits aussi longs et aussi ambitieux ? Alors, peut-être pas sur La Belle Mort, où on est encore dans une configuration urbaine, avec un même si déjà en termes de thème, tu commences à élargir, mais avec Adrasté, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Tu décides d'écrire un mythe grec qui n'existe pas. C'est légèrement ambitieux. Est-ce que tu avais conscience de cette ambition ou pas ?
Alors, je pense que j'ai conscience d'une chose, c'est de la difficulté du marché, de l'univers de la bande dessinée, donc à savoir cette difficulté de vivre en tant qu'auteur au milieu de la multitude d'auteurs, de pouvoir être lu et de se distinguer des autres, de cette surproduction qu'on a aujourd'hui. Et donc, partant de ce constat-là, le but, c'était d'avoir une ambition démesurée pour chacun des titres, être persuadé dans l'idée initiale d'essayer de faire la meilleure BD possible, même s'il s'avère que forcément, à la fin, ce n'est pas le cas, parce que c'est un absolu qui n'est pas atteignable. Mais pour autant, voilà, avoir cette ambition de se dire il n'y a pas de limite à la proposition cérébrale que je vais coucher sur papier.
Sur Shangri-La, tu as un objectif, tu te réfères à d'autres œuvres de science-fiction ?
Vaguement. Oui, complètement. Dans différents domaines. Dans celui de la littérature, le but c'était vraiment d'être dans un héritage des dystopies un peu contestataires qu'on avait avec 1984, Le meilleur des mondes, où on partait d'un totalitarisme militaire et imposé par la force. Donc voilà, le but était de l'adapter à un monde contemporain où on peut faire ça de manière très pacifique avec...
Tu veux dire où les gens d'eux-mêmes se mettent dans l'autoritarisme sans s'en rendre compte.
Oui, voilà, où on préfère le sécuritarisme à la liberté. Donc ça, pour la partie littéraire, il y a forcément la partie cinématographique qui m'a inspiré. Enfin, le but aussi d'afficher de Shangri-La, c'est de faire une grande épopée de SF en bande dessinée, alors que les maîtres étalons, en tout cas graphiquement dans l'imaginaire graphique, sont au cinéma. Je pense à 2001, je pense à Solaris, je pense à Sunshine, des œuvres qui sont très contemplatives, qui mettent ce rapport très graphique entre l'homme et le cosmos. Donc ça pour la partie cinématographique. Et pour la partie bande dessinée, donc il s'avère que le genre est assez peu représenté finalement dans ce média-là. On a Universal War One, on a La Guerre éternelle qui était mes deux piliers dans cette art science où on essaye quand même de contraindre l'histoire à des principes physiques et scientifiques plus ou moins réalistes.
Ce qui est amusant, c'est que moi, en tant qu'auteur d'Universal War One, je pourrais citer exactement la même liste, sauf moi-même, évidemment, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais La Guerre éternelle, et même le titre sonnait volontairement un peu en référence à ça. Quoi. Donc, oui. On voit qu'on est sans doute de la même famille. Tu cites quand même des œuvres qui sont contemplatives jusqu'au mysticisme, sans mettre de divinité, ou extrêmement politiques. Pour toi, c'est le résumé du genre de Shangri-La ?
Oui, complètement. Dans la mesure où pour moi, une œuvre futuriste peut être que politique, quoi. De toute façon, on va projeter du présent pour le déformer dans le futur. Donc c'est un choix de projeter tel ou tel élément. Donc c'est forcément politique. Le côté contemplatif, et on le retrouve sur les autres œuvres, vient du fait que j'essaie de trouver l'équilibre justement entre la raison et l'impression, entre ce que je vais essayer de, de projeter de messages et ce que je vais essayer de projeter d'émotions. Et l'émotionnel passe, en tout cas pour moi, par ce côté contemplatif.
C'est très long, Shangri-La. Tu as mis combien de temps à le réaliser ?
Alors, sans compter le scénario, parce que j'ai une écriture assez chaotique dans la mesure où c'est vraiment de la collecte de petits bouts d'histoire année après année qui sont ensuite globalisés. Mais en termes voilà, de production, de dessin, deux bonnes années.
Tu as un éditeur qui a financé donc deux années de travail
Oui. Oui. Alors, faut pas se leurrer. Hein, c'était pas. J'ai pas pu faire construire la piscine dans le jardin en même temps. Hein, mais oui, suffisamment en tout cas pour pouvoir finir la BD correctement.
C'est une chance dans le marché d'aujourd'hui parce qu'on a une grosse tendance des éditeurs à vouloir de moins en moins financer parce que le marché étant chargé, bah, chaque sou qui sort est un sou qui peut ne pas revenir. Donc, financer sur deux ans, voire parfois plus, c'est en effet. C'est bien d'avoir trouvé un éditeur qui joue ce jeu-là avec toi. Alors beaucoup de gens, quand je parle de ton travail, pensent que tu es un auteur numérique, totalement numérique, absolument numérique, et ce n'est pas le cas.
Et non, c'est pas du tout le cas. Alors du coup, la couleur est quand même faite à l'informatique, mais plus pour des contraintes de temps et d'efficacité que par une véritable volonté. Quoi. Si je pouvais faire du tradit, je le ferais. Non, tout est dessin et ancrage est fait à la main. Dans la mesure où voilà, y a beaucoup de décors, beaucoup de points de fuite, de l'architecture. Je travaille sur une grande table d'architecte avec une règle géante. Je trace systématiquement et pour chaque case mes points de fuite. Je ne sais pas si c'est par habitude ou si c'est vraiment plus pratique, mais en tout cas, j'ai maintenant une dextérité qui me permet d'être extrêmement rapide là-dessus. Et je ne pense pas que je pourrais retrouver ça en numérique.
Je te le confirme. Parce que j'ai moi-même basculé vers le numérique et je n'ai jamais été aussi rapide à faire du décor que, oui. Que sur papier, en fait. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et les gens pensent ça parce que tes perspectives sont parfaites. Donc je pense que beaucoup soupçonnent que tu utilises la 3D pour caler tes perspectives. Alors que quand on a l'habitude de regarder de la perspective, on sait très bien que c'est la perspective manuelle parce qu'il y a des choix esthétiques, voire des tricheries de perspectives, oui, que tu fais pour mettre en avant des choses. Quoi.
Oui. Oui, complètement. Le côté parfait, je pense que c'est mon côté un peu carré, mais effectivement, où j'ai tendance à voir à chaque fois qu'il y a des points de fuite qui ne vont pas au bon endroit. Mais pour autant, oui, alors, c'est pareil, c'est un style qui est un peu paradoxal, parce que le but, c'est d'avoir quelque chose de très carré, très géométrique, et pour autant qui reste suffisamment organique et suffisamment dynamique pour pas qu'on ait l'impression que c'est du dessin technique. Donc par la déformation de la perspective, par l'ajout, enfin je fais exprès de riper sur ma règle, d'ajouter du défaut, de rajouter de la vie pour briser justement le côté trop mathématique qu'il y a dans mon dessin.
Dans Shangri-La, si tu devais donner ton message politique, il est assez visible dans le livre, mais ce serait lequel, en fait? Et j'avoue que j'ai entendu des gens se plaindre que tu en donnes, disant « Ah, ça aurait été bien plus poétique sans. »
Poétique, peut-être. Intéressant, probablement beaucoup moins. Moi, en tout cas, je défends le fait de mettre qu'il y ait une vraie idéologie dans mon travail, peu importe qu'elle soit acceptée par tout le monde, et peu importe qu'il y ait des gens qui ne s'y retrouvent pas du tout et qui soient contre ça, il n'y a pas de problème. C'est une œuvre, elle est terminée, elle est acceptée ou non, c'est le principe d'une œuvre, quoi.
Mais je pense que c'est dérangeant pour certains lecteurs parce que finalement on s'aperçoit que la bande dessinée est relativement devenue apolitique sur beaucoup de points. Elle fait du sociétal souvent, mais quand il s'agit d'aller sur le vrai terrain politique, du commentaire de société là plus dur, quitte à tu donnes quelque part ta vision du monde et tu fais une contre-proposition même. Ça n'est plus habituel du tout, quoi. De la même manière que le chanteur engagé se fait rare, quoi.
Oui, complètement. Mais je pense qu'il y a une peur d'aller sur ce sujet parce qu'il est clivant. Mais il est clivant parce que tout le monde, de toute façon, on le voit dans n'importe quelle discussion qu'on pourrait avoir avec n'importe qui. Dériver sur la sphère politique, c'est le risque de rentrer en contradiction immédiate avec quelqu'un qui est de la même obédience, mais pas exactement. De telle sorte que, en tout cas, oui, on peut plus aller, je pense, sur ce sujet-là. Mais tout média confondu, quoi. Effectivement, on le trouve plus du tout. En l'occurrence, moi, il y avait quelque chose de très viscéral à sortir de toute façon, et effectivement, peu importe qui plaise ou pas, quoi. le but, de façon avouée de Shangri-La, était de déstabiliser à un moment, quoi. Enfin, prendre un parti pris suffisamment radical pour que au moins tout le monde puisse se sentir mal à l'aise, finalement, en tout cas, un certain passage de l'histoire.
On va essayer de faire un peu le tour des termes. Il y a le consumérisme que tu dénonces très clairement.
Oui, mais qui est presque le plus facile, finalement. Oui. Et c'est pour ça que c'est paradoxalement celui qui revient le premier, alors que ce n'est pas le plus intéressant. C'est le plus facile parce que c'était celui qui servait à asseoir le système dans lequel l'histoire tourne. Et finalement, effectivement, du coup, on m'a parlé d'Apple, on m'a parlé de Samsung, on m'a parlé de... Et c'était pas véritablement le message. Enfin, c'était le décorum dont j'avais besoin pour faire rentrer le lecteur dans quelque chose qui se complexifie au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, de toute façon, plus que le consumérisme, c'était les conséquences de notre niveau de vie bien douillé occidental qui était remis en question, quoi.
Surtout que tu présentes un monde où finalement ce niveau de vie douillet est réduit à vivre dans un demi-bout d'appartement, mais où on est quand même dans le fantasme d'acquérir le dernier modèle. On serait prêt à tout sacrifier pour ce dernier modèle, à ton avis ?
C'est déjà le cas, bon, c'est très extrapolé, mais oui, en tout cas les appartements symbolisent ce recul des libertés individuelles et de tout ce qu'on lâche en termes de données personnelles, de libertés individuelles au profit ou de plus de sécurité ou de plus de technologie, complètement.
Il y a, alors là, à travers l'ensemble de tes livres, un vrai discours sur l'hybridation des espèces, sur le spécisme, sur toutes ces choses-là. Tu es touché par la cause animale ou c'est plus vaste que ça ?
Les deux. Touché par la cause animale, oui, parce que donc, de toute façon, en conséquence justement de ce consumérisme-là qui donc se limite pas à savoir si Apple c'est le mal ou pas, il y a donc cette idée que, en l'occurrence, on a une consommation de viande complètement déraisonnée de par ce qu'elle implique en termes de pollution, d'industrie, de maltraitance, pour conforter des habitudes alimentaires qui en plus sont complètement obsolètes et enfin sont même pas nutritivement intéressantes, quoi. Là où ça mixe avec l'hybridation, c'est qu'au travers des différentes histoires, il y a ce principe d'évolution, ce principe cyclique qu'on a tendance à nous voir, nous, à notre époque, mais je pense que c'était pareil pour toutes les époques, comme un aboutissement humain de, voilà, on est à notre pinacle, là on est au maximum et plus rien ne peut nous arriver, et puis bon, on regarde en arrière les différentes civilisations qui se sont cassées la figure et voilà, cette hybridation, moi c'est une sorte, voilà, d'évolution logique vers quelque chose de peut-être de futur qui me passionne et qui va dans donc l'hybridation biologique, mais enfin qui peut aller dans l'hybridation technologique également, quoi.
Ou mythologique en l'occurrence dans la drafté.
Oui, oui.
Tu veux dire par là que nous sommes juste à un point du temps et que rien n'est fixe et que l'homme disparaîtra tel qu'il est homme et laissera place à mieux ou moins bien.
Oui, de toute façon, là, s'il fallait récupérer le thème de Shangri-La, c'est ça. Parce que ça parle de création, de la création de... de la matière dans le soleil, dans les étoiles, ça parle de ce rapport à l'immensité et nous du coup où on se positionne par rapport à ça. Et effectivement, on a un vrai problème à prendre du recul sur ce qu'a été l'humanité, sur les différentes étapes très cycliques qui reviennent constamment et qui fait que on monte, on descend de notre espèce par rapport aux autres et de se voir comme une espèce d'ethnocentrisme où c'est nous tout, on est un tout absolument indéboulonnable, alors que voilà, remettre un peu de remettre un peu d'équilibre là-dedans dans la pensée pour se réimaginer différemment que des hommes tout puissants, que des humains tout puissants.
Alors, je connais déjà le sujet de ton prochain livre. Tu continues dans cette idée-là à travers le sujet des intelligences artificielles ou pas ?
Oui, complètement. En l'occurrence, alors aussi parce que du coup la SF s'y prête et que le sujet de la robotique n'avait pas été traité dans Shangri-La, alors que Shangri-La brasse à peu près tous les autres thèmes de SF existants. Et en l'occurrence, voilà, quand on parle d'hybridation, quand on parle de futur de l'humanité, l'IA a l'air d'être un peu la créature de Frankenstein de notre époque, le pinacle scientifique et technologique qui va peut-être nous faire basculer vers quelque chose d'autre et qui est vraiment à mettre en rapport avec, d'ici quelques années, avec une urgence climatique, avec des migrations forcées justement liées au climat ou liées à la guerre, qui fait que d'un coup d'un seul, on va être au maximum de notre technologie qui va être profitable pour certaines personnes et également on va avoir des personnes qui n'auront jamais été aussi autant paupérisées et qui pourront pas profiter de ça et dans ma prochaine histoire on verra cette évolution sur les 100 prochaines années, qu'est-ce que l'IA fait là-dedans et qui pourra renvoyer qu'est-ce que l'IA en rapport à la création et qu'est-ce que du coup l'âme humaine, le rapport au corps etc.
Tu crois à l'âme en tant que principe détaché du corps ou pas ?
Non.
Non, parce que comme tu dis le mot, tu crois à l'esprit incarné dans le corps ?
Non, je crois aux neurones qui font des connexions plutôt correctement. Non, et c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le transhumanisme et avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on a des gens dans la Silicon Valley qui sont omnibilés par l'immortalité, par le fait de transférer un esprit dans de l'information qui puisse ensuite être mis sur des serveurs, sur un support informatique. Et pour moi, c'est vraiment prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire est-ce que notre humanité, c'est pas notre rapport au corps, à nos sensations le questionnement basique de est-ce que l'homme est un homme de raison ou de pulsion, etc. Et donc voilà, ça sera les sujets de la prochaine bande dessinée.
Ce que tu montres aussi à travers du personnage de l'homme-chien, John, où on sent bien que tu essayes de montrer l'animalité, l'humanité, la confusion. Alors là, je me suis demandé d'où était venue cette idée réellement, parce que c'est une idée qui n'est pas une idée technologique dans le récit, qui est vraiment une idée métaphorique, alors que tu le traînes de manière très réaliste. Tu te souviens comment ça apparaît, ce genre d'idée ?
Alors d'abord, très très bêtement, c'est-à-dire un dessin sur un coin de table d'un bonhomme avec une tête de chien. Donc pour l'aspect graphique. Et puis après, comme la volonté dans Shangri-La, c'était de brasser plein de thèmes sociétaux et qu'il fallait, pour moi en tout cas, de parler des usines de montage, de la production de la viande, de la récupération politique des minorités pour faire du battage médiatique et évacuer les problèmes importants. D'un coup d'un seul, il y avait cette solution de... entre autres les animoïdes, vont me permettre de synthétiser absolument tous ces concepts en un.
Oui, c'est vrai que c'est à la fois le racisme, à la fois le spécisme, enfin... Tu es pessimiste ou optimiste ? Moi, on me traite de pessimiste à chaque conférence ici depuis 20 ans. Donc, te sens-tu optimiste ou pessimiste ?
Pessimiste, mais pas autant que toi, je pense.
Je reste le champion.
Non, mais et je pense qu'on le voit dans chacune de mes histoires, c'est... Il y a cette notion de, oui, pessimisme pour nous, mais pas pour la suite. Enfin, tu vois, c'est pareil, c'est vraiment nous faire descendre un peu de notre piédestal et s'inscrire dans un grand tout, sans faire gourou de secte, mais s'inscrire dans un grand tout où il y a eu des choses avant, il y aura des choses après, et point, quoi. Enfin, donc, pessimisme pour nous, oui, ça, sûrement.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste de nous après, alors, si on est amené à disparaître ? Ah, j'ai réussi.
Juste des os, et du coup, à la manière des dinosaures, les successeurs s'imagineraient des choses incroyables sur notre histoire sans savoir exactement.
Ah, les gens répandent souvent les formes d'art, ce genre de choses, et tu penses à nos os.
Non, mais encore une fois, ce qu'on a créé, correspond à notre période et bien pour nous et pas forcément bien pour la suite. Quoi.
Ouais, tu crois pas que Rimbaud soit universel ou
Non.
Ouais. Ouais, c'est, voilà une bonne réponse. Tu replaces vraiment l'homme à sa petite dimension dans l'univers. Surtout qu'en plus, il y a des multivers, on n'en parle même pas. Là. Ça devient vraiment ridiculement petit. Tu n'es pas effrayé quand même un petit peu à des moments à contempler notre néant et ce gigantisme autour?
Je pense que c'est la principale raison pour laquelle je fais de la bande dessinée, ou en tout cas j'écris des histoires, c'est pour un côté un peu cathartique de ressortir ça de moi et de le poser, coucher sur papier pour m'en extraire un peu.
Tu regardes la nuit, le ciel, des moments enfin, je ne sais pas si on voit beaucoup le ciel à Grenoble dans la cuvette. Là,
Non, il faut s'éloigner un peu.
Ouais. Mais quand tu es dans la montagne.
Ouais, complètement. Non, alors ça, c'est un truc qui me fascine complètement. Et encore une fois, dans cette volonté d'être un peu plus humble, je sais pas, c'est quelque chose de tellement fascinant, de tellement plus gros que nous, et on y fait si peu attention que j'essaye de le remettre un peu dans mon quotidien. Ouais.
Parce que c'est l'endroit où le space opéra et la mythologie se croisent, en fait, quand on regarde le ciel. Parce qu'on regarde à la fois les constellations qu'ont inspiré les anciens l'extraordinaire connaissance qu'on a maintenant de la taille absolue, gigantesquement, dépassant tout. Voilà, le grain de sable dans l'univers qu'on peut être à la sortie. Donc tu n'es pas écrasé par ça, mais tu as quand même un petit peu besoin de lui donner un sens, pour toi en tout cas.
Oui, voilà, mais je pense que c'est bien le mot, c'est oui, donner un petit peu un sens.
Oui. C'est un sentiment que je partage. Donc. Tu envisages comment ta vie d'auteur? Maintenant, là, tu as un succès, un vrai. On peut espérer que le prochain aura un bon succès, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, peut-être beaucoup plus. Mais ça a dû changer ta vision de carrière, inévitablement. Ou pas encore, peut-être.
Non, je ne pense pas encore, parce que j'allais répondre au jour le jour, c'est-à-dire comme chaque auteur doit faire un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque projet validé est une réussite, chaque projet futur n'est pas garanti. Moi, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui me suivent bien, mais non, je suis encore dans ce présent-là de « on verra plus tard ». Effectivement, alors, je ne sais pas, mesurer la qualité du succès, ou en tout cas d'une œuvre globale par rapport à un succès de livre pour l'instant, ça me paraît... Ça me paraît un peu ambitieux dans la mesure où, oui, ça se trouve, dans 10 ans, il y aura d'autres personnes qui feront d'autres trucs vachement mieux. Enfin, bon.
Oui. Ceci dit, on manque d'auteurs dans la BD de SF, réellement. Quoi. C'est étonnant, les gens ont un imaginaire que la bande dessinée serait remplie de science-fiction. Ça a été vrai dans les années 80, particulièrement, autour de Métal Hurlant. Mais de fait, aujourd'hui, on est peu d'auteurs à pratiquer cette SF-là. Il y a une petite école de SF d'action qui a été principalement autour de série B. Puis après, on se connaît un peu tous, c'est un tout petit groupe, tu commences à les rencontrer tous les uns après les autres. Donc là, j'allais dire qu'il doit y avoir un tiers dans les murs en ce moment. Quoi. Ça te donne envie d'en faire plus, ou tu aimerais bien finalement qu'il y ait plus de baston entre nous, plus d'œuvres qui te donneraient envie, etc.
Non, parce que je crois que j'ai trouvé du coup la bonne niche dans laquelle me diriger. Non, ça me donne plus envie d'en faire, en tout cas, dans la mesure où du coup, voilà, y a un champ des possibles qui est bien plus important que dans d'autres genres et sous-genres. Je digresse, mais oui, je pense qu'on peut revenir au fait que effectivement, c'est un genre qui a toujours été très politique, en tout cas la science-fiction réaliste, et qui n'est pas une science-fiction d'action, et que c'est pour ça qu'elle est de plus en plus désertée. Et du coup, ça me donne encore plus envie de me dire, bon, peu importe qu'il y ait un lectorat ou un marché dessus, mais en tout cas, il y a encore des choses et des idées à propager là-dedans. Quoi.
Alors, j'ai pu constater en parcourant ton blog et compagnie que tu es un geek. Un peu comme ça, tu te soignes
Non, je ne suis pas encore rentré en centre d'addiction, mais oui, complètement. De toute façon, je pense là, en parlant très globalement, que je fais partie d'une génération qui a été bombardée de culture pop japonaise et américaine et qui commence à régurgiter ça tout doucement. Donc, oui, gros geek, mais parce que oui, c'est depuis tout petit, quoi.
des envies d'aller travailler un peu dans le jeu vidéo, de concevoir même un jeu vidéo, d'aller essayer de te faire une place au Japon ou aux USA, tout ce genre de... Voilà, maintenant que tu commences à avoir fait tes preuves, est-ce que tu as déjà envie, à certains moments, d'aller voir ailleurs ce que tu peux les faire ?
Le jeu vidéo m'intéresse, ouais. Ouais, parce que je pense que c'est un média qui est assez impressionnant là, dans la mesure où il réussit là où toutes les autres œuvres passives échouent, c'est en appliquant le lecteur de manière bien plus émotionnelle. Il y a un avatar, il y a une transposition. Oui, mais bon, enfin, voilà, j'essaie de faire les choses dans le bon ordre. Pour l'instant, je suis auteur de bande dessinée parce que c'est ce que je sais faire. Je vais essayer de le faire encore mieux et puis on verra par la suite.
Tu penses que tu pourrais faire de la politique en jeu vidéo ?
Oui, mais ça existe déjà. Hein. Oui. De plus en plus, hein, dans la scène indé, il y a des choses vraiment, vraiment super chouettes qui sont là-dedans.
Hein. Mais oui, ça te paraît... Non, parce que ça devient, l'air de rien, tout de suite lourd. On fait rarement son jeu tout seul. Il faut partager donc une vision politique avec d'autres gens, déjà. C'est pas négligeable.
Oui, alors ça sera peut-être le premier frein à ça. Mais non, je pense qu'il y a de plus en plus... Il y a déjà plein d'autres œuvres pour justement ne pas être sérieux, et c'est pas de manière péjorative que je dis ça. Hein. Et il y a des œuvres de divertissement pur, il y a des œuvres de divertissement, et je pense en faire, qui sont un peu moins gratuites. Et oui, ça, je pense que c'est transposable à tous les médias.
De la même manière, tu travailles, j'imagine, seul chez toi, dans des longues journées de solitude, comme la plupart des auteurs. Dans le jeu vidéo ou à d'autres endroits, on pourrait être tenté par le collectif. Est-ce que tu as des envies de collectif ou tu es content d'être dans ta grotte ?
Non, j'en ai de plus en plus et des choses qui se concrétiseront dans un futur plus ou moins proche. C'est je pense la chose qui manque, c'est à un moment quand on se dit ah c'est bon, on est auteur, scénariste, dessinateur complet, il faut que tout vienne de nous et que l'histoire nous ressemble et soit vraiment le pur produit de notre expérience. Et en fait je me rends compte que vraiment, je sens qu'il y a une progression dans les livres, mais pas seulement parce que c'est une progression personnelle, parce que de livre en livre je me suis plus ouvert à justement discuter et confronter mes idées avec d'autres personnes. Donc ce besoin de collectif, oui, je le ressens de plus en plus parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fait des œuvres meilleures.
Oui, donc pas en négociant à distance avec les autres œuvres comme je disais tout à l'heure, mais plutôt en discutant avec d'autres créateurs ou d'autres,
oui,
ou des,
oui,
intellectuels,
oui.
Des politiques, enfin
complètement.
D'accord. La science-fiction, le mythologique, tu restes dans le secteur de l'imaginaire. T'as envie d'en sortir ?
Alors non, pas pour l'instant. Non, cette part de rêve, d'enchantement et d'immersion dans des univers à chaque fois variés, ça c'est vraiment ma volonté de dessinateur, vraiment de créateur de mondes différents. Donc non, pour l'instant, ça pourrait être des univers fantastiques dans d'autres mondes, des trucs différents, mais toujours du fantastique.
Est-ce que le légendaire te nourrit, est pas là en partie pour nourrir le dessinateur ? Parce qu'il y a au-delà des thèmes, etc. Moi, je sais que personnellement, aller dessiner une voiture d'aujourd'hui, ça m'ennuie au dernier niveau. Est-ce que tu es dans le légendaire en partie pour ne pas avoir à dessiner des voitures, quoi ?
Oui, complètement. De base, déjà, je trouve ça très chiant de dessiner deux cases qui se passent au même endroit. À chaque fois, tous mes personnages dans toutes les BD sont en constant déplacement. Parce que je vais m'ennuyer très vite. Et de la même manière, effectivement, dessiner du quotidien, quelque chose qui n'est pas à être inventé, interprété, et qui n'est pas un petit côté magique, ouais, m'intéresse vachement moins.
Donc pour parler du quotidien, faire de la politique, tu décides de ne pas le dessiner. C'est quand même... Moi, je me suis toujours interrogé chez moi sur cette antinomie. Tu l'as ressenti déjà ou pas ?
Oui, particulièrement avec Shangri-La, où effectivement on m'a posé la question de savoir mais pourquoi ne pas l'avoir fait dans une période contemporaine, parce que finalement on parle juste de ça, quoi, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors ça aurait été effectivement, je pense, vachement plus chiant à dessiner. Et puis la part d'imaginaire, c'est ce qu'on se rend compte pas forcément, mais c'est vrai que, enfin, je pense le cinéma de genre, le genre en général, est quelque chose d'assez il y a un petit côté péjoratif dedans, alors que c'est le genre qui, par le divertissement, qui par une porte ouverte vers un imaginaire complètement différent, et a justement ce pouvoir de ramener des questionnements, des sujets très contemporains, et justement c'est cette distance qui crée en proposant un univers différent qui fait que je pense que le lecteur est encore plus réceptif au message proposé.
Donc tu voudrais peut-être en fait faire quelque chose qui serait dans le quotidien, te ramènerait à ne parler que des individus, de ce qu'on est aujourd'hui, ce que finalement on focaliserait, alors que là, en prenant la distance, en effet, on regarde la société, même si on la déplace avec une autre société, tu as l'impression qu'on parlera toujours comme ça mieux de société. Donc c'est un peu la différence là entre l'heroic fantasy souvent et la SF. L'heroic fantasy qui découle du légendaire a une tendance à parler de l'individu. Comment vais-je devenir adulte? Est-ce que je dois tuer mon père pour ça? C'est la quête personnelle. C'est pour ça que la psychologie s'est beaucoup appuyée sur le légendaire et aurait pu s'appuyer sur une bonne partie de l'heroic fantasy. À l'inverse, la SF, en effet, on parle non pas de l'individu, mais de la société. Même quand tu fais du mythologique, qui devrait se rattacher plutôt à la première école, j'ai l'impression que tu parles de société alors que tu présentes un personnage immortel, qu'on pourrait être sur le focus du personnage immortel. Or, c'est finalement ce qui est autour de lui qui est le cœur du récit, beaucoup plus que le personnage lui-même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais...
Oui, non, c'est exactement ça. Parce que moi, c'est ces grands... questionnement métaphysique qui concerne non pas ma personne mais quelque chose de plus global qui m'intéresse et que j'essaye de retranscrire le quotidien, le quotidien appartient à chacun et enfin voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de proposition de ma part vis-à-vis de ça. Par contre, une réflexion plus globale sur notre place, nos objectifs et notre destinée, ça c'est quelque chose qui peut se discuter de manière plus large, je pense.
Crois-tu à l'influence aujourd'hui des artistes pop qui font ce genre de choses sur la société ou le fais-tu malgré le fait que tu n'y crois pas vraiment?
Alors le problème c'est que si j'y croyais pas, j'arrêterais parce que fatalement donner du sens à son travail, c'est un peu la seule solution pour continuer. Et avoir la conviction que même pour une très faible minorité de lecteurs, ce qu'on fait, la culture qu'on apporte peut faire une petite différence, c'est le grain de sable apporté, la petite contribution qu'on a le pouvoir d'apporter avec nos genres de métiers.
De changer le monde, oui.
Oui, oui, enfin, petit à petit, quoi, mais oui.
Oui, aucun de nous ne va le faire sans doute directement, mais bon, on a fait un peu le tour, je pense, d'une partie des questions que pose ton travail. J'allais dire ton œuvre, mais oui, j'ai osé le mot, parce que tu es en train de faire œuvre. C'est assez rare de voir des gens faire autant œuvre. Je vous recommande à tous de lire les trois livres, et à la limite dans l'ordre de parution, parce que vous allez voir se construire une œuvre, réellement, quoi. Même en termes de dessin, parce que tu as quand même vraiment complété ton dessin. Je ne veux pas dire amélioré, parce qu'en fait, on sent qu'au début, tu as fait avec les moyens que tu avais, puis que tu as rajouté des choses pour être de plus en plus libre de raconter ce que tu voulais.
Oui, complètement. De toute façon, là où il y a eu une réflexion, c'est qu'au moment d'écrire La Belle Mort, je savais déjà que je ferais un récit mythologique et un récit de science-fiction. J'ai commencé par le post-apocalyptique, tout bêtement, parce qu'il y avait du décor et très peu de personnages à dessiner. Donc j'ai commencé par le plus facile pour aller vers le récit mythologique d'une personne qui erre dans des décors pareils, avec un peu plus de monde et une histoire... un peu plus linéaire, pour finir par Shangri-La, que je savais être le projet le plus ambitieux et en termes de dessin, en termes de concept, de narration et de structure.
Donc je vous propose de passer aux questions, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal dans la salle. On a quelqu'un devant. Hop. Ça y est, ça va arriver. Là, je l'ai fait apparemment un peu tôt, donc surprise. Merci.
Bonjour, déjà félicitations pour cette œuvre effectivement qui est en construction et dont on attend la suite. Alors moi j'aurais une petite question justement sur les concepts du dessin, parce que tu sembles très attaché à l'architecture, j'aimerais bien savoir d'où ça vient en fait.
Ça vient du Japon. Je pense que je peux citer trois œuvres, à savoir Akira, Blame de Tsutomu Nihei, et plus généralement donc l'animation Miyazaki, qui ont des personnages plutôt simplistes finalement, avec des décors très très poussés. Et pour moi, enfin, tu vois, cette immersion, cet enchantement et ce fait de vraiment se projeter dans le monde qui nous est proposé, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que j'ai voulu m'approprier pour mes propres histoires.
Une autre question ?
Bonjour. On a abordé la question assez rapidement en termes de générationnel, qu'en fait, peut-être que notre génération est tous un petit peu geek parce qu'on a été baignés dans la pop culture très rapidement. Est-ce qu'il y aurait des références limites générationnelles qui sont vraiment de notre génération comparées à la littérature très classique, de nos classiques, même au niveau du cinéma, des œuvres de tout genre qui sont vraiment de notre génération, qui t'ont influencé? Merci.
Je vais reciter Akira, qui pour le coup, cette découverte des années 90, était une grosse influence. De manière générale, de toute façon, pour le côté générationnel, je pense que le Japon et la narration japonaise des mangas est une suite logique de ce qu'on retrouve en bande dessinée franco-belge aujourd'hui, à savoir, si on a explosé le format 48 pages, c'est plus pour être plus obligé d'avoir une narration vraiment contrainte à l'efficacité, efficacité. Une forme de respiration, de ménager ses effets d'une manière différente, qui découle complètement de Dragon Ball à Akira, en passant par toute la production japonaise des années 90 à 2010, quoi.
Ce qui est étonnant, c'est que ce format, il a été plutôt cassé au départ par les gens du roman graphique, en référence à la liberté du roman. Et pour Ankama et pour d'autres personnes, je pense Jean-David de Morvan, etc., ça a été clairement la référence au Japon, mais on se retrouve avec des formats cassés pour des raisons extrêmement différentes, quoi. Tu te sens dans le roman graphique, j'imagine que des gens à des moments doivent te parler de ton roman graphique, c'est quelque chose qui te paraît naturel pour ton travail, ou tu préférerais qu'on te dise que tu fais un manga à la limite?
Oui, un manga ou un comics, et encore pareil, cet effet générationnel de s'apercevoir que des auteurs de 20-30 ans qui se retrouvent avec un style, une narration qui est vraiment à la croisée des chemins entre le comics, le manga et le franco-belge, et on voit que tout le monde a bien assimilé les codes pour produire quelque chose de à la fois complètement spécifique et à la fois complètement nourri par tout ça.
Bonjour. Pardon, je prends la parole. Oui, tu parles de Akira et du manga. On sent aussi ton influence, peut-être un peu des studios Ghibli. Est-ce que tu aurais une tentation pour aller vers l'animé finalement, ou vers l'animation tout simplement?
Alors, de ce que je connais du milieu, ça a l'air tellement compliqué. Il y a l'air d'avoir tellement de contraintes et de compromis à faire pour avoir un résultat qui ressemblerait peut-être pas à 100% à ce que je voudrais faire, que pas tellement. Et c'est en ça que, c'est marrant, que la bande dessinée est à la fois reste un art mineur, mais est l'art où la capacité de s'exprimer sans limite de moyens est le plus important, quoi, finalement.
C'est même dans le domaine du dessin le seul art dans lequel on ne se retrouve pas dans l'industrie, quoi. Ouais.
Bonjour Mathieu Bablette, c'est un plaisir de vous voir ici. Je voulais vous dire que pour moi, votre BD, elle a provoqué un gros changement, puisque ça faisait un moment que j'étais un peu frustré de la BD à cause de son prix, que je faisais toutes mes actions de lobby dans les bibliothèques et tout. Ils n'ont pas trop les moyens aussi, on n'a pas les dernières BD qui sortent. Et un jour, on m'a mis Shangri-La entre les mains. Ça fait vraiment plaisir de redécouvrir une BD aussi complète, intégrale, aussi aboutie dans les idées et dans le dessin, pour des tarifs qui sont à 20€, voire moins, si concerne La Belle Mort. Alors, merci beaucoup, j'espère que vous en vivez quand même, du coup. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de retomber dedans et de me réconcilier. Donc.
C'est merci. Effectivement, alors c'est pas de mon fait de choisir le prix de cette bande dessinée, que ce soit la fabrication, le dos toilé, le format. Ça, pour le coup, c'est vraiment Ron, le directeur de collection, qui a eu suffisamment de nez pour dire qu'il fallait que cette histoire sorte comme ça. Mais du coup, je me permets de rebondir sur le fait qu'effectivement, à un moment, moi j'ai bien conscience que, en tant que lecteur, le prix est important et c'est un peu le nerf de la guerre de se retrouver avec une bande dessinée qui redevienne cet objet culturel et accessible à tous, qui permette au plus grand nombre de le lire. Et j'espère que toutes mes prochaines BD sortiront aussi peu chères, entre guillemets.
Pour ne rien cacher, quand j'avais posté tout le bien que je pensais de son travail sur Facebook, il y a eu plusieurs éditeurs qui sont intervenus en disant « c'est n'importe quoi ce prix !» Au sens où ils se réfléchissaient, eux, en termes de leur coût interne et qu'ils ne comprenaient même pas comment Ankama avait réussi ce tour de force. Et je dois dire que de ce que je connais du métier de l'édition, je ne comprends toujours pas. Donc bravo à Run. Ou alors il a fait un casse pour financer le bouquin, peut-être.
Bonjour à vous deux. Et en fait, je voulais te demander, Mathieu, vu que tu as quand même l'air d'être beaucoup séduit par la science-fiction, je me demandais si, dans des prochains travaux, tu serais tenté d'aborder des thèmes comme, par exemple, la vie extraterrestre. Parce que, dans Shangri-La, tu portes quand même le thème de l'homme qui n'est pas né sur Terre. Mais je pensais à une vie extraterrestre déshumanisée, quelque chose une créature, quelque chose plus d'animal. Et je me demandais si ça t'intéresserait dans tes idées de réflexion sur la société, de réflexion sur un autre monde.
Dans l'absolu, je dirais que non. Tout bêtement parce que... Le vrai fil rouge qu'on retrouve à chaque fois, c'est l'humain. Qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il peut faire et pourquoi il est là. Enfin, qui sont des questions vraiment très basiques et plein de gens y ont répondu pour eux depuis des centaines d'années. Mais toujours est-il que du coup, il y a ce rapport à l'humain qui est finalement la seule chose qui m'intéresse et seule chose, je pense, qui transparaît à chaque fois. Donc partir d'une vie extraterrestre me paraît beaucoup trop éloigné de ce genre de considération.
Question réellement. Ah.
J'ai une question peut-être un peu plus anecdotique, mais en te rencontrant, en te voyant, j'ai l'impression de retrouver les traits de certains de tes personnages. Donc c'était, est-ce que tu t'es inspiré de personnes de ton entourage? Est-ce qu'il y a des références à d'autres personnages? Et peut-être en écho à la discussion sur le pessimisme, j'avais cette phrase de Gramsci en tête, avoir le pessimisme dans l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et je crois que la bande dessinée de science-fiction, et en général la science-fiction, s'adresse à de l'intelligence, à une capacité de révolte, à une forme de lançage, je ne trouve pas le mot. Vous êtes des lanceurs d'alerte, j'ai envie de dire. Et dans Shangri-La, on a quand même une grosse thématique sur la révolte. Enfin, c'est un livre de révolte, avec la scène, donc il ne faut pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui est particulièrement marquante, qui réussit à mon avis. Ce qui est une des principales caractéristiques de l'art, créer de l'émotion, enfin, susciter des émotions. Et puis après, on a toute la réflexion sur la révolte et ses limites, puisqu'il est facile de manipuler des révoltés, comme on peut le voir dans le livre. Voilà. C'était plus une réaction et puis une première question.
Alors sur la question du style, je pense que je fais pas exprès, mais effectivement, mes personnages déjà ont vraiment un archétype de forme, enfin le nez, les yeux, etc., qui sont assez reconnaissables et sans faire exprès, probablement que je me projette un peu trop dedans. Pour le côté lanceur d'alerte, on en revient au fait que à ce qu'on disait, c'est que effectivement il y a un but, il y a un sens à faire de la bande dessinée, à propager des idées. Enfin, quelle est cette légitimité à se dire moi ce que j'ai à raconter a besoin d'être lu par d'autres. Et en ce sens, c'est pour ça que je pense qu'il y a une volonté d'être politique, parce qu'autrement à quoi bon, quoi. Et du coup où j'en étais. Et du coup, oui, bah, lanceur d'alerte à un niveau infinitésimal, mais oui, oui, c'est un peu l'idée. En tout cas, là, moi, j'ai fait cette BD avec toutes les triples énergies que je pouvais, parce que c'était, j'avais besoin de le sortir, j'avais besoin que ça soit réceptionné par l'autre et qu'il y ait un écho quelque part. Et sur le côté... oui, enfin, révolutionnaire, oui, clairement, oui. De toute façon, c'est une BD qui est extrêmement marquée par, fatalement par son époque, par l'année 2016 plus précisément. Moi, j'ai réécrit certains passages de mon scénario en conséquence des manifestations sur la loi travail, des 49-3, de la répression policière. J'avais cette idée un peu utopique à un moment que le totalitarisme consumériste pouvait être fait simplement sur la bonne volonté des gens sans user de la force, et il s'avère qu'aujourd'hui ben, on peut revenir à une forme de répression violente sous couvert de plus de sécurité. Donc oui, c'est révolutionnaire parce que c'est parce qu'on est dans des années où on est dans des années révolutionnaires quoi, qui ont commencé, qui vont arriver. Enfin voilà. En tout cas, c'est ma conviction, pardon.
Tu penses que c'est ce qui s'est passé à notre travail ou ces derniers temps, c'est les derniers capables encore de relever la tête sur tout ça, ou c'est les premiers qui relèvent la tête d'un mouvement qui va grandir?
Non, c'est les premiers. C'est les premiers. Bah oui, dans la mesure où on sera arrivé au bout du processus quand le ras-le-bol aura atteint tout le monde, quoi.
Une autre petite question, j'en reviens un petit peu à considération de ce qui s'est passé dans le processus créatif. Ce serait pour Adrasté, j'aimerais savoir un petit peu quelles ont été tes œuvres éventuellement de l'Antiquité qui ont pu un petit peu guider ton propos, ton processus de création.
Il faut savoir que pour Adrasté, le côté mythologique est vraiment que le décorum, dans la mesure où autrement on a une histoire finalement assez contemporaine, et je pense qu'on le voit d'ailleurs avec les dialogues, qui finalement parle du deuil, de la transmission et du rapport à l'histoire et à ce qui reste. Donc mes grosses influences en termes du coup de ce décorum là ça sera Jason et les Argonautes et le Choc des Titans, première version avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen.
Pas le dictionnaire de mythologie finalement,
probablement dans un coin de l'esprit, oui, forcément, ouais.
Je dis ça pour rassurer les mythologues qui sont dans la
oui.
salle.
Oui, j'avoue, le traquen.
Attends, oui. D'autres questions? Ah ben.
Oui, donc moi, ce serait une question. Je reviens sur le fait que le jeu vidéo t'intéresse. Si tu voulais te lancer dedans, ce sera en tant que créateur, vraiment, donc réalisateur, ou plutôt travailler juste sur les parties graphiques, travailler uniquement sur le design, quoi?
Non, le dessin, pour le dessin, m'intéresse pas. Encore une fois, il y a cette recherche de sens dans le travail que je fais. Et je prends du plaisir à dessiner que quand il y a une histoire, une réflexion derrière. Donc non, ça serait de la création. De toute façon, et maintenant, quand le dessin est un moyen et plus un but dans la bande dessinée que j'écris.
Tu dirais que tu es plutôt finalement un narrateur qui dessine maintenant qu'un dessinateur qui raconte?
Très clairement, oui. C'est une évolution que... en tout cas, c'est une prise de conscience que je peux avoir là, à partir de Shangri-La, parce que je m'en étais absolument pas rendu compte pour les précédentes, mais oui, maintenant, complètement. Donc j'ai la chance de savoir dessiner les histoires que j'ai envie de raconter, quoi.
Oui. C'est... On revient quelque part aux origines de la bande dessinée où les métiers étaient communs. C'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de voir les métiers séparés, mais il y a une force à ce que les métiers soient communs. Ne serait-ce que éventuellement quand on raconte, quand une seule personne raconte, elle emporte le lecteur, y compris dans tout ce qu'elle oublie. Alors que quand deux personnes, tout se met devient sujet de discussion un peu rationnel parfois au moment de la création d'un livre. Et la force de ton travail repose aussi, je pense, sur le fait que finalement tu sais ce que tu fais et tu ne sais pas ce que tu fais pas. Et même dans ton dessin, tu as ces genres de choix, tu fais toujours des choix forts pour ce que tu dois faire, et finalement au moins tu vas tout droit, et je suis sûr qu'on pourrait aller chercher tout ce que tu n'as pas fait en fait, et te faire un procès de 10 heures là-dessus, mais ça n'a aucun intérêt parce que tu as fait exactement et à fond ce que tu devais faire. Et ça, c'est vraiment un modèle à suivre pour les auteurs aujourd'hui, d'aller à fond sur leur décision initiale. En espérant trouver l'éditeur qui joue le jeu, évidemment. Bon, s'il y a encore une question, on a encore 2 minutes, autrement, on va se faire une petite conclusion. Aurais-tu un... Ah, il y en a une.
Pour revenir tout à l'heure, vous parliez du fait, dans les 3 livres, de ne pas raconter l'histoire d'un individu, mais vraiment de la société ou de ce groupe qu'est l'humanité. Et paradoxalement, à chaque fois, j'ai eu l'impression de retrouver le thème de la solitude à certains moments, le fait de mourir seul, le fait de finir, détaché du groupe. Et je voulais savoir si c'était quelque chose d'important pour vous et ce que vous en pensiez du coup.
Alors il y a un rapport à la solitude, mais qui est pas pessimiste. Ce rapport à la solitude, je le vois avec le rapport à la contemplation, avec le rapport à un moment de se retrouver à un instant T et dans le temps et dans l'espace, et qui est pour moi une expérience très très personnelle. Et c'est ça plutôt que je vais essayer de transmettre. Je dirais que la solitude ensuite qui en ressort, c'est cet aspect peut-être un peu mélancolique, bien probablement de mon caractère, mais c'est plus par capillarité que ça jaillit sur les histoires.
On va finir sur ce grand solitaire contemplant le monde que tu es. Merci en tout cas pour ton travail.
Merci à toi.
Tu dédicaces juste maintenant ?
Ouais.
Voilà, je vais te suivre, je vais faire quelques signatures, comme ça on ne se quittera pas, parce que c'est un bonheur d'être avec toi.
Ouais, merci.